France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Merci, fils, Inderhausi.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Robière.
C'est l'histoire d'un mec lambda qui se baladait dans son van. Un ancien otage français retenu par l'Iran, Benjamin Brière, raconte ses 3 ans passés en prison. Entre absurdité et amitié, un enfermement qui devient aussi intérieur. Il raconte sa grève de la faim, sa révolte. Il en veut infiniment au régime des mollahs, mais rend hommage au peuple iranien. Une femme première ministre au Japon, mais contrairement aux apparences, nous dira Frédéric Saïs, ce n'est pas du tout un signe d'ouverture, bien au contraire. Connaissez-vous la Gagaouzie? Le reportage d'un jour dans le monde vous emmènera dans cette région moldave sous influence russe.
La Russie ne nous envahira jamais.
Poutine
n'a jamais tué.
Dans Sous les radars, c'est l'influence chinoise, cette fois, qui inquiète le Royaume-Uni sur fond d'espionnage. Et Caroline, au pays des 27, nous présentera celui qui va remettre le prestigieux prix Sakharov pour la liberté d'esprit au nom de l'Union européenne. Vous connaissez les escales de notre tour du monde. Alors c'est parti.
On est juste une famille désespérée qui attendons que les choses bougent et qui attendons simplement de serrer notre fils, frère, cousin, tonton dans les bras au plus vite, quoi. On attend juste ça. On peut plus se permettre de perdre autant de temps, lui faire perdre autant de vie là-bas pour quelque chose qui est irréaliste.
Alors cette voix, c'est celle de Blandine Brière. Elle s'est battue pour médiatiser le sort de son frère Benjamin, arrêté en Iran, où il voyageait le 28 mai 2020, emprisonné d'abord à l'isolement. Il a finalement été relâché le 12 mai 2023. 1079 jours hors du temps, coupé des siens, sans comprendre pourquoi il est condamné ni pourquoi il est acquitté. Azadi, qui signifie liberté en persan, c'est le titre de son livre qui sort jeudi chez Robert Laffont. Le récit intime de son enfermement jusqu'à ce qu'il sorte libre, le poing levé. Bonsoir Benjamin Brière.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est l'histoire d'un type qui croyait naïvement qu'il pouvait échapper à son destin. Ce sont vos mots, expliquez-nous.
C'est au début, effectivement, qu'on prend la liberté comme elle vient durant ce genre de voyage. Et j'étais un peu déstabilisé par la voix de ma petite sœur.
Vous l'aimez tant et vous lui rendez tellement hommage dans le livre.
Ce sont les premiers mots du livre, en effet.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, vous dira, après votre libération, en gros, qu'est-ce que vous alliez faire là-bas?
Oui, vous l'avez bien cherché, mais ça c'est, on va dire que c'est le béaba quand on rentre et on l'a tous entendu quand on est revenu. Nos familles l'ont tous entendu aussi.
Vous étiez un touriste ?
J'étais un touriste, de toute manière, ça aussi, on voit tout et son contraire, notamment en ligne. Non, j'étais bien un touriste. Je devais passer au Pakistan ensuite, après l'Iran, et ensuite je devais aller jusqu'en Inde. Et puis malheureusement, les frontières ont été fermées.
Donc on toque à votre van,
oui.
La police vous arrête, et là, c'est le piège de ce que l'on appelle la diplomatie des otages qui se referme sur vous ?
C'est ça. Ça se referme très vite. Nous, on comprend pas très vite.
On vous accuse d'être un espion.
On m'accuse d'être un espion d'une force ennemie et de propagande, de faire de la propagande contre les régimes en place, effectivement.
Mm-hmm. Et la première fois, donc quelques heures après, quelques jours après l'arrestation, je crois, vous passez devant un juge qui vous bat. Et très vite, vous vous retrouvez à l'isolement. Racontez-nous cette
affaire. Ça fait une bonne semaine après avoir été arrêté, un juge, un mollah, qui pour extorquer et obtenir des aveux, effectivement cogne, pendant que traducteurs et services de renseignement me font des clés de bras. Ouais. Mais ça, c'est une de leurs techniques. Et encore, c'est pas la plus violente.
L'isolement, ensuite.
L'isolement, ouais, il y aura...
Ça, vous l'avez très mal vécu, hein.
Oui, mais...
Quatre promenades de 10 minutes en un mois.
Le premier mois, oui. Après, le reste du temps, 24 heures sur 24, c'est dans une cage de 1,50 m sur 3 m. Sans fenêtre, les lumières néon allumées 24 heures sur 24 et à dormir par terre, oui.
Et là, Benjamin Brière, vous perdez la notion du temps ?
Du temps, oui. Au bout de 31 jours, je me trompe de à peu près 2 jours, malgré essayer de compter justement ces jours-là. On se demande si justement ils font pas exprès non plus de faire une différence entre que ce soit les heures de la prière, que ce soit les repas, que ce soit le thé, etc., etc. On se demande vraiment s'ils sont pas tout décalés justement.
Ensuite, vous vous retrouvez à la prison de Machad. 23 000 prisonniers, là on est dans une autre dimension.
C'est une machine à broyer.
Voilà, j'allais le dire, vous l'écrivez, vous dites cet endroit est d'une violence extrême, une machine à broyer. Expliquez-nous.
C'est, je viens de passer quelques mois dans une prison de province à Kuchan. Donc on était 600-700 prisonniers répartis dans trois quartiers différents. Là, on arrive à Machad. C'est même dans les films, en fait, on ne s'imagine pas ça. Et on vous jette dedans, en fait. Vous faites partie. Puis de toute façon, vous n'êtes plus Benjamin. Vous êtes un numéro. C'est mon numéro de matricule et c'est l'inventaire qu'ils font tous les jours pour compter les prisonniers.
Vous en souvenez encore de votre numéro de matricule ?
Ouais, je l'ai même tatoué sur le bras maintenant. Ouais.
Pourquoi ouais. Vous l'avez tatoué ?
Parce que c'est quelque chose qui restera toujours gravé en moi. Et par contre, je l'ai fait quelque part où je ne le vois pas et c'est derrière parce que c'est passé.
Alors, ce que vous ressentez dans cette machine à broyer, c'est un mélange de plein de choses. Il y a de l'ennui, il y a de la honte. Vous dites, il faut trier les épuisements, la fatigue, l'angoisse, l'abattement. Vous évoquez aussi un enfermement psychologique. Expliquez-nous.
L'enfermement, il est double dans le sens où, au début, je ne peux même pas échanger avec qui que ce soit, avec qui je cohabite dans ce dortoir. On fera des dortoirs où... le maximum que j'ai fait, on était 51 détenus pour 23 lits dans 60 mètres carrés à peu près. Mmh. Donc c'était un double enfermement. On ne peut pas communiquer, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'est pas franchement avec des gens avec qui on a l'habitude d'être. On ne va pas se mentir. Mmh. Et voilà, c'est compliqué de communiquer. En plus de pas comprendre, en plus de pas avoir accès à la famille, en plus d'avoir n'importe quel droit bafoué, en plus d'avoir un juge qui cogne, en plus d'avoir passé des mois en cage d'isolement. Ouais, c'est compliqué.
Et où puisez-vous votre force, Benjamin Brière, pour ne pas vous laisser déshumaniser ?
Dans la boîte à archives, comme l'appelle Sylvain Tesson.
C'est-à-dire ?
Dans les souvenirs, dans le passé. La première année, il y a un jeu que je mets en place. Qu'est-ce que je faisais, où j'étais il y a un an, jour pour jour.
Mmh. Vous le racontez très bien dans le livre, d'ailleurs, il y a des passages très touchants.
Au bout d'un an, j'étais là, game over.
Alors, aujourd'hui, Cécile Collère et Jacques Paris, détenus depuis près de 3 ans et demi, viennent d'être condamnés pour espionnage. Elle a 20 ans de prison, lui a 17 ans. Leurs proches sont très inquiets. C'est une question de survie pour eux. Vous devez ressentir, j'imagine, mieux que personne ce qu'ils traversent.
Je n'arrive même pas à ressentir ce qu'ils traversent. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'ils traversent, sincèrement.
Vous pensez que c'est
Ce qu'ils vivent, c'est sans nom. C'est sans nom, c'est complètement inhumain. Leurs familles ne savent même pas où ils sont en ce moment. Mmh. Ils ne sont plus dans la prison d'Evin, ils ne sont plus dans la tristement célèbre section 209. Les familles ne savent même pas où ils sont. Ça fait des mois qu'on leur fait miroiter comme quoi ils vont être condamnés, que ça va être sévère. Ça fait des semaines maintenant qu'on leur fait miroiter une libération pour échange. Enfin.
Parce que ça se passe toujours comme ça, en fait.
Alors ça dépend, parce que vous avez évoqué Catherine Colonna tout à l'heure, moi elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a juré qu'il n'y avait eu aucune contrepartie contre la mienne, puisque j'ai été libéré pour raisons humanitaires.
Mmh. Et que le régime, vous aviez fait une grève de la faim.
Mais parce que le régime des Mollahs est très humain, c'est bien connu. Pour Cécile et Jacques, c'est terrorisant, et leurs familles sont terrorisées, oui.
Est-ce que vous avez des nouvelles même indirectement d'eux ?
D'eux, non. Non, vraiment, c'est ce qui se passe, c'est sans nom, vraiment. C'est diabolique.
Alors, vous, Benjamin Brière, vous avez été condamné à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage, donc en janvier 2022. Coupable, sans besoin de preuves, écrivez-vous. On cherche à vous faire avouer n'importe quoi. Finalement acquitté le 15 février 2023. Vous devez sortir le jour même et non. Racontez-nous cette scène qui est quand même assez incroyable.
C'est rocambolesque, encore une fois, mais ça montre bien le fait que rien n'a de sens depuis 2 ans et demi. On me sort de mon dortoir, on me fait passer les sas de sécurité, on arrive à 1 mètre de la sortie, on me demande de me mettre sur le côté pour attendre un petit peu, et on me fait signe finalement de retourner, de faire marche arrière 2 minutes après.
À 1 mètre de la sortie ?
Ouais, vraiment, littéralement.
Et vous ne sortirez finalement ?
que quelques mois après.
Trois mois et demi plus tard.
Ouais, et encore, mon avocate m'avait annoncé une semaine après cet acquittement que y aurait une nouvelle audience très peu de temps après. Moi, j'avais compris que c'était dans trois semaines, sauf que c'était le calendrier persan. Donc chez nous, c'était dans quatre mois.
Vous dénoncez maintes fois, et on le voit dans votre récit, le non-sens, les mensonges, les manipulations, l'hypocrisie, la lâcheté du régime iranien.
Ouais, tout est fait pour vous briser, tout est fait pour vous broyer, tout est fait pour que vous, quand vous appelez votre famille, vous puissiez crier à l'aide au désespoir, pour que votre famille ensuite fasse pression sur sur le gouvernement français. Et les Iraniens, c'est leur jeu, puisqu'ils ne demandent même pas quoi que ce soit au début aux États, à l'État français en l'occurrence. Mmh. Ils attendent.
Mais vous, Benjamin Brière, vous êtes aussi un homme révolté. Vous leur tenez tête. Vous êtes une forte tête quand même, comme on dit. Et vous refusez, par exemple, d'être échangé contre un terroriste. Vous refusez de signer un document disant que vous n'attaquerez pas les autorités iraniennes après votre sortie. Vous ne vous laissez pas faire quand même dans cet enfer.
Je me laisse pas faire. Je leur tiens tête poliment, toujours. Ça les déstabilise un peu. Le côté « je ne veux pas être échangé contre un terroriste », c'est ce que je demande à l'ambassade de France pendant les visites consulaires. Et chaque document qu'on me présentera en persan, de toute manière, je refuserai catégoriquement dès le jour 1, sauf violence et obligation de le faire, de rien signer.
Bon. Vous finissez par sortir après 106 jours de grève de la faim. Vous l'avez dit, vous êtes libéré officiellement pour raisons sanitaires. Hein. Ouais. Vous avez écrit « La captivité est un traumatisme, la libération en est un autre ».
Oui, ça va vite. Ça va trop vite je sors d'une pièce où j'ai passé 2 ans et demi. Et d'un seul coup, l'horizon s'élargit, ça va très très vite, il y a beaucoup de nouvelles personnes, il y a beaucoup d'informations, on revoit sa famille, on prend l'avion, c'est assez fou, oui, effectivement. Ça peut être traumatisant aussi, cet arrachage à la prison, bizarrement.
Mmh. Et aujourd'hui, comment ça va ?
C'est pas évident tous les jours, mais je pense que dans sa globalité, je m'en sors plutôt pas trop mal.
Vous aimeriez que l'on crée aujourd'hui un statut spécifique pour aider ceux qui se retrouvent dans votre situation ? Expliquez-nous.
C'est extrêmement important. Au retour, il y a rien qui est prévu. Absolument rien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement de la part de l'État français. Et donc, c'est ce pourquoi on milite. En ce moment, avec, je l'espère bientôt, l'écriture d'un texte de loi pour l'accompagnement et la création d'un guichet unique des familles, pour l'accompagnement des familles pendant la détention et les otages à leur retour.
Merci, merci infiniment Benjamin Brière d'avoir été l'invité d'Un jour dans le monde. Azadi, c'est le titre de votre livre témoignage. On y voit un homme révolté, il y a aussi beaucoup d'ironie, il y a des passages très drôles. Merci, c'est publié chez Robert Laffont.
Merci.
La suite, merci. C'est vous Frédéric Saïs et tous les soirs vous remettez le monde à l'endroit.
Et sera-t-il encore possible de visiter le Japon ? La nouvelle première ministre veut restreindre l'entrée des étrangers dans le pays.
Et ce sera juste après ça. On a bien ondulé, nous aussi, dans le studio, en écoutant Tamat du groupe Nusantarabit, des Hollandais, figurez-vous, qui nous proposent de la folk indonésienne, extrait de leur premier album, Frédéric Saïs et Le Monde à l'endroit.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Et vous intéressez ce soir, Frédéric, à la nouvelle première ministre du Japon qui a été nommée aujourd'hui.
Il y a quelques minutes, comme c'est la coutume, elle s'est inclinée devant l'empereur. C'est historique, voici la première ministre du Japon. Jusque-là, la fonction n'avait été occupée que par des hommes. Alors attention, raccourci, c'est historique, oui, mais ça n'annonce en rien un pouvoir plus féministe. Au contraire, en l'occurrence, Sanae Takaishi, c'est son nom, veut maintenir l'obligation faite aux épouses de porter le nom de leur mari. Et dans son tout nouveau gouvernement, elle n'a nommé que 2 femmes sur 22 ministres. La parité est encore loin.
Et si sa désignation comme première ministre est lourde de sens, c'est pas parce que c'est une femme, mais c'est à cause de ses idées.
C'est une nationaliste, pure et dure. Elle a pris la tête de son parti au terme d'une campagne très à droite. Priorité, lutter contre l'immigration. Première mesure, renforcer les contrôles. Elle compte ainsi revoir les politiques qui permettent, je la cite, l'entrée de personnes qui ont une culture et des origines complètement différentes. Ces dernières années, au Japon, c'est vrai que le nombre de résidents étrangers a fortement augmenté. Ils sont désormais 3,5 millions. Leur proportion a doublé en 15 ans. Ce sont notamment des travailleurs népalais, vietnamiens, indonésiens qui sont venus renforcer le secteur de la construction, de l'industrie, de la restauration. Secteur en tension à cause du déclin démographique, bien sûr. Un tiers de la population japonaise a plus de 65 ans. Alors la lutte contre l'immigration, la crainte d'une perte d'identité japonaise fait assez consensus. Dans ce pays insulaire, pays dont l'histoire a été marquée par de longues périodes de fermeture au monde, même si aujourd'hui la part des résidents étrangers ne représente que 3% de la population globale de l'archipel, c'est environ 9% en France.
Mais la nouvelle première ministre japonaise, Frédéric, ne critique pas seulement l'immigration, elle s'en prend aussi aux visiteurs, aux touristes.
Oui, sera-t-il encore possible de visiter le Japon dans les années à venir? Le nouveau gouvernement compte restreindre l'accueil des touristes. La première ministre les accuse de semer le chaos, de faire monter les prix, de mal se comporter. En version originale, ça donne Kanko Kogai, littéralement la nuisance du tourisme. Elle prend l'exemple de ces influenceurs qui se filment en train de faire des tractions sur les portiques des sanctuaires sacrés. Instagram et TikTok ont décuplé la fréquentation des lieux les plus photogéniques, aux grandes dames des populations locales. La baisse du cours du yen, la monnaie japonaise, a aussi encouragé l'afflux. Il y a 20 ans, le Japon accueillait seulement 6 millions de touristes par an, 37 millions l'an dernier, c'est 6 fois plus. Figurez-vous que la nouvelle chef du gouvernement japonais a même créé un ministère chargé des étrangers. C'est tout nouveau, c'est son nom et ça en dit long.
Et avec ce nouveau gouvernement japonais, faut-il s'attendre à des changements géopolitiques dans la région?
Alors la nouvelle première ministre est très hostile à la Chine. Elle a qualifié les touristes chinois d'espions en puissance. Ces dernières années, elle a aussi multiplié les visites très sensibles politiquement dans le sanctuaire de Yasukuni, sanctuaire qui célèbre entre autres des criminels de guerre japonais, ce qui irrite évidemment la Chine. Alors pour l'instant, la nouvelle première ministre ne prévoit pas d'accomplir ce déplacement avec son nouveau costume. Ça aurait été une provocation dont ne veulent pas les États-Unis, les grands alliés de Tokyo. Donald Trump arrive d'ailleurs au Japon en début de semaine prochaine pour rencontrer la nouvelle femme forte du pays sur le nationalisme et sur l'immigration. Nul doute que les sujets de conversation seront légion.
Ça paraît clair. À demain, Frédéric. Le reportage nous emmène ce soir en Moldavie, pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Cette ex-république soviétique située entre la Roumanie et l'Ukraine est aujourd'hui tiraillée entre l'influence de la Russie et la volonté de rejoindre le camp occidental. En Moldavie, vous avez sans doute entendu parler de la Transnistrie, république pro-russe, autoproclamée, indépendante. Mais il y a aussi, et c'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage, la Gagaouzie. Cette région autonome du sud de la Moldavie est elle aussi largement sous influence russe. Le reste, c'est Virginie Pironon qui raconte.
Nous sommes à Komrat, capitale de la Gagaouzie, région d'un peu plus de 100 000 habitants. Ici, la population parle le gagaouz, une langue turque, mais surtout le russe. Très peu le roumain, comme ailleurs dans le pays. L'Ukraine n'est qu'à une trentaine de kilomètres et la désinformation bat son plein. La guerre fait très peur à Anna, une habitante de 67 ans. Mais quand on lui demande si elle redoute un jour une invasion de la Russie, la retraitée hausse le ton.
La Russie ne nous envahira jamais.
Poutine n'a jamais tué. Croyez-moi, ce n'est pas vrai. J'ai de la famille là-bas. Ils y vivent depuis plus de 50 ans et ils le disent. Il n'a jamais tué. Moi, je suis pour la Russie et je veux vivre en Russie.
Nous ne voulons pas de l'Europe, ajoute Alexandre, 61 ans.
Nos valeurs et les vôtres, elles ne vont pas ensemble. Nous, on a la religion, on n'a pas ça, cette débauche-là. Les relations entre hommes, ça doit se passer entre un homme et une femme. Ça ne va pas, ce qui se passe chez vous.
Dans un immense éclat de rire, Dunia explique vendre des tomates pour payer ses factures de gaz et d'électricité qui ont bondi à cause de la guerre, mais elle ne veut pas parler de corruption. On a peur de parler de ça, depuis que la gouverneure de Gagaouzie, Evgenia Goutsoul, a été condamnée au mois d'août à 7 ans de prison pour financement illégal. Evgenia Goutsoul, placée à la tête de la région par un homme, Ilan Shor, oligarque pro-russe, accusé d'avoir volé 1 milliard d'euros à des banques moldaves, réfugié en Russie, il exerce une très forte influence en Gagaouzie. Mikhail Sirkeli est journaliste, directeur du portail d'information Nocta.
Que voulez-vous dire par forte influence? Il contrôle le gouvernement local. Il a placé Evgenia Goutsoul au pouvoir. Il a corrompu et acheté les élections. Ok, elle a été punie, mais ces gens sont toujours là. Son comité exécutif, ses juges, ses procureurs, tous, ils ont juste décapité ce système, mais il reste en place.
Ce système, le maire du village de Tchadirlunga, tout au sud, la frontière avec l'Ukraine, peut en témoigner. Lors des dernières élections locales, Anatoly Topal avait soutenu un autre candidat que celui d'Ilan Shor. Il a reçu la visite d'hommes de main.
Ils ont proposé des sommes d'argent très importantes. J'ai tout refusé. Car pour moi, Shor n'est pas une perspective d'avenir. C'est la destruction de la Gagaouzie. Malheureusement, certains élus locaux se sont laissés influencer. Et au municipal, ils ont présenté 4 candidats contre moi. Leur objectif était, ils me l'ont dit, de me détruire à tout prix. Dieu merci, les gens ont vu que nous avions travaillé et nous avons obtenu 74% des voix dès le premier tour.
Lors des élections législatives de septembre, les partis pro-russes ont engrangé plus de 80% des voix en Gagaouzie. Certains observateurs accusent l'actuel gouvernement pro-européen de ne pas agir suffisamment pour lutter contre la nostalgie de l'Union soviétique.
Merci Virginie Pironon de nous avoir emmenés en Gagaouzie. On change tout de suite de destination avec Guillaume Audat et l'actualité internationale passée sous les radars.
Oui, sous les radars, c'est Netflix qui craint d'y passer un de ces 4 matins. La plateforme, figurez-vous, est boudée par les Américains.
Et Caroline, au pays des 27, Caroline Gillet, vous nous emmenez dans les coulisses du prix Sakharov
oui,
de l'Union européenne.
Oui, absolument, parce qu'il y a bien le prix Nobel qui n'a pas été remis à Donald Trump, mais à l'automne, il y a aussi le prix Sakharov de la liberté d'esprit, et lui, il sera annoncé demain.
Un prix Nobel de littérature, cette fois, consacré pour sa poésie. On vous pose du lourd et du grand classique, Bob Dylan, I Want You. Take your size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down to love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the
cute to him, was I? But I did it because you lied, because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Bob Dylan qui sera en concert à Paris au Palais des Congrès les 30 et 31 octobre. L'info passée sous les radars, vous nous la remettez dans l'oreille, Guillaume Audin.
After a brief delay, the Puk Puk Treaty is now signed, sealed and almost delivered.
Le traité Puk Puk, c'est le nom de l'alliance militaire entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Une première entre ces deux pays depuis la fin de la guerre froide.
Voilà, et c'est dire le bouleversement à l'œuvre en Asie-Pacifique. Premier effet de ce traité d'alliance, 10 000 soldats papous intègrent aussi officiellement les rangs de l'armée australienne, c'est bien ça. C'est à la fois révolutionnaire et historique. Révolutionnaire parce que l'Australie est l'ancienne puissance coloniale, elle a administré la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'en 1975, et puis historique, ce rapprochement inédit entre Canberra et Port Moresby, la capitale papoue, marque un réveil, une volonté claire de ne plus subir le jeu des géants dans la région. Très concrètement, l'Australie, en échange de cet accord de défense mutuelle, obtient un veto sur tout accès chinois aux ports, infrastructures et minerais stratégiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'intérêt est double, il permet aux deux pays d'endiguer les ambitions militaires de Pékin dans la zone et d'anticiper un éventuel désengagement de Washington. Il y a en toile de fond un malaise grandissant, le doute partagé sur la fiabilité de Trump, de la parole américaine.
When it comes to China, the UK needs to defend itself resolutely against threats and seize the opportunities that demonstrably serve our nation.
Lorsqu'il est question de Chine, le Royaume-Uni doit écarter toute menace et résolument. Ça, c'est ce que nous dit le patron du renseignement intérieur britannique qu'on vient d'entendre.
Voilà, il ajoute Ken McCollum, le directeur général du MI5, que le gouvernement, je cite, doit maintenir, saisir toute opportunité pour servir avec détermination ses intérêts. Je vous fais les sous-titres. La Chine espionne massivement les Britanniques. Il est plus que temps pour eux de sortir de leur léthargie, quand bien même l'étroitesse des liens économiques compliquerait les postures diplomatiques. Eh bien, ce mardi, le cabinet de Keir Starmer devait trancher sur le nouveau projet d'ambassade chinoise, un bâtiment XXL en plein cœur de Londres, avec peut-être de très, 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 très grandes oreilles. En tout cas, la décision a été repoussée. L'affaire traîne depuis 2018. Elle agace Pékin, mais elle traduit un état de tension maximale entre les deux capitales. L'enjeu, c'est une grosse affaire d'espionnage. Elle a fait pchit ces dernières semaines. Contre toute attente, le 10 Downing Street a abandonné, faute de preuves suffisantes, dit-il, des poursuites contre deux suspects, supposément à la solde du renseignement chinois. Problème, depuis, les révélations s'accumulent, elles s'enchaînent, la pression politique augmente, le Premier ministre britannique est pris en étau. Protéger la sécurité nationale de son pays face à une Chine très intrusive ou préserver des relations apaisées avec la deuxième puissance mondiale. Pékin menace de très lourdes conséquences si son projet d'ambassade, la plus grande d'Europe, venait à capoter.
On en frémit d'avance. La cinquième et dernière saison de Stranger Things, sur laquelle mise beaucoup Netflix pour se relancer.
Voilà, ou encore sur des matchs de foot en direct, ou encore des jeux vidéo sur votre téléviseur qui s'écristelle. Pourquoi pas ? Eh bien, en tout cas, parce que le mastodonte du streaming attend avec grande fébrilité la réaction des marchés à la publication ce soir, dans quelques heures, de ses résultats au troisième trimestre. Les investisseurs anticipent déjà des chiffres décevants. Ils savent que le temps moyen passé devant Netflix par les Américains est tombé à son plus bas niveau depuis 3 ans. En clair, les abonnés regardent ailleurs et ils regardent où, me direz-vous, Christelle, ça ? Eh bien, ils regardent en direction de leurs écrans. Ils passent leur vie chez les concurrents de TikTok à YouTube pour de nouveaux formats, d'autres histoires. Un bouleversement majeur des habitudes de consommation est en cours à l'échelle planétaire, avec en miroir une guerre dont nous sommes, nous, les sujets que se livrent les plateformes pour un bien très convoité, l'attention du public. Et il est sur France Inter et ils ont de la chance,
Nos auditeurs. De la chance, c'est sûr. Merci, à demain, Guillaume. Et c'est à vous, Caroline Gilles.
France Inter, le 18-20.
Voilà.
voilà.
La porte. Caroline, vous arpentez les couloirs des institutions à la recherche de fonctionnaires qui accepteront de vous parler. Et aujourd'hui, vous avez rencontré un certain Stéphane Kraus.
Oui, qui fait partie des convaincus de la démocratie européenne, pourtant mise à mal en ce moment. Il est directeur de l'unité des droits humains au Parlement et avec une petite équipe, il s'occupe de la remise du prix Sakharov pour la liberté d'esprit. Le choix du ou de la lauréate raconte souvent beaucoup de choses sur le contexte géopolitique du moment. Il est arrimé, comme dit Stéphane Kraus. Aux priorités politiques du Parlement européen. Je retrouve Stéphane entre justement le Parlement européen et son musée à Bruxelles. Au sol, il y a une trentaine de plaques avec des noms et des dates. Et tout autour, il y a un courant d'air.
Alors attendez, parce que il va falloir qu'on se mette à l'abri du vent quand même.
Voilà, donc on est ici à cette promenade Sakharov, promenade pas des célébrités, mais promenade de la liberté. Parce que malheureusement, les gens qui luttent pour nos libertés sont rarement célèbres. Certains le sont, comme ici le premier lauréat du prix Sakharov du Parlement européen, Nelson Mandela, mais il y en a plein d'autres qui ont suivi depuis 1988. À l'époque où le Parlement européen a mis en place le prix Sakharov, c'était la fin de la guerre froide. Sakharov, à l'époque, était le dissident soviétique le plus connu. Nous avons ici la plaquette d'Alexei Navalny, l'opposant russe.
Lui, il a reçu le prix en 2021.
Et petite anecdote, nous avons, pour sensibiliser à la situation d'Alexei Navalny, nous avons amené une réplique de sa cellule de prison devant le Parlement européen. Pour montrer au public dans quelles conditions il est incarcéré. C'était une année avant son décès.
Alors comment ça marche? Chaque groupe politique au Parlement européen peut soumettre des idées de candidats et candidates. Ils et elles doivent recevoir le soutien de 40 parlementaires pour être nommés. Le prix Sakharov est doté de 50 000 euros. J'ai écrit à Stéphane pour qu'il me raconte comment il se sent.
C'est une période où le travail que nous faisons arrive un peu au grand jour de l'actualité, et c'est assez intéressant. C'est aussi la période de l'année où il y a la remise du prix Nobel de la paix. Et bon, le Parlement européen a un peu le flair de repérer le futur lauréat du prix Nobel à travers son prix Sakharov, si je connais eu dans le passé Nelson Mandela, Malala, le docteur Mukwege, voilà.
Ce que dit là Stéphane Kraus, c'est que les prix Sakharov sont souvent précurseurs. Alors sachez que cette année, Donald Trump ne figure pas parmi les nommés. Bon à savoir pour le prix Nobel de l'année prochaine. Mais il y a bien Charlie Kirk sur la liste. Le nom de l'influenceur d'extrême droite assassiné en septembre a été proposé par le groupe d'extrême droite Europe des Nations Souveraines au Parlement européen. Charlie Kirk n'a pas été retenu parmi les trois finalistes. Voilà ceux et celles qui l'ont été. Andrei Pochobut, journaliste biélorusse, critique du régime Loukachenko et qui est en détention depuis plusieurs années. Son nom a été proposé par les groupes de droite, par des députés du Parti populaire européen et des conservateurs et réformistes. La journaliste emprisonnée Emzia Amaglobeli, ainsi que son mouvement de protestation pro-démocratique en Géorgie. Parmi les nommés, il y a aussi les journalistes et travailleurs humanitaires en Palestine. Cette candidature avait été proposée par le groupe des socialistes et démocrates. Et enfin, le groupe Renew Europe, donc les libéraux du Parlement européen, a proposé de nommer les étudiants et étudiantes qui manifestent en Serbie contre la corruption notamment. Le ou la lauréate sera donc annoncé demain. Stéphane Kraus sera dans la salle. Lui, il est arrivé dans les institutions comme traducteur à la Commission. Il a grandi en Allemagne, près du rideau de fer, à la frontière d'alors avec la Tchécoslovaquie.
Quand on grandit avec un tel phénomène, c'est de la normalité.
Vous aviez quel âge du coup à la chute du mur et à la fin de l'URSS?
21 ans.
Ah, c'est un bon âge pour vivre les bouleversements géopolitiques.
Oui, effectivement. Bah, d'ailleurs, la seule et unique manifestation de ma vie, je l'ai faite une semaine avant la chute du mur. J'étais à Berlin. On a manifesté pour la réunification de l'Europe et pour la chute du mur. Et puisque c'était la manifestation qui avait le plus de succès dans ma vie, j'ai arrêté là. Et je ne l'ai plus jamais refait.
Si ça pouvait être toujours comme ça.
Ah oui.
On parle ensemble des résultats des différents sondages sur la démocratie. Il y a le dernier rapport de l'Institut de recherche VEDEM en Suède, où je lis que l'an dernier, 45 pays étaient en voie d'autocratisation, contre 19 seulement qui progressent sur la voie démocratique. C'est trois fois moins qu'il y a 30 ans.
Le cœur du travail qu'on fait, le Parlement européen, dans le soutien de la démocratie et des droits de l'homme, c'est cette méthode qui a fondé l'Europe. C'est cette méthode de Jean Monnet qui a dit « Nous ne coalisons pas les États, nous unissons des hommes ». Aujourd'hui, on dirait les humains autour d'une table et on parle, on échange. C'est ça
la démocratie.
En plus du prix Sakharov, il y a aussi une bourse qui est remise chaque année à 14 militants et militantes pour les droits de l'homme. Ensuite, l'idée, c'est année après année de garder des liens avec tous ces militants et lauréats.
Souvent, ces gens viennent ici à Bruxelles aussi à des moments précis. Par exemple, quand l'Union européenne s'apprête à conclure un accord avec leur pays d'origine pour sonner la sonnette d'alarme, pour dire n'oubliez pas les droits humains. À ce moment décisif, où vous poussez vos intérêts commerciaux. Et surtout, on mobilise aussi nos députés au moment où ils sont en danger, en difficulté. Un passeport confisqué, une condamnation. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie silencieuse, c'est donner un coup de fil à un ambassadeur, mais beaucoup plus visiblement, nous avons les résolutions d'urgence. Elle est non contraignante juridiquement, mais elle peut, dans certains contextes, avoir un impact.
Vous avez vécu ça un jour ?
Oui, on n'en parle pas beaucoup, parce que ça fait aussi partie de la discrétion. On a certainement fait beaucoup pour la sécurité du docteur Mukwege, le médecin qui répare les femmes, comme on l'appelle, au Congo, et dont la sécurité était fortement menacée. Donc là, le Parlement, je pense, a fait beaucoup aussi.
Voilà, l'annonce des résultats du prix Sakharov, c'est demain vers midi et je mettrai le lien du streaming sur la page de la chronique.
À suivre demain donc, merci, et à mardi. C'est toujours le 18-20 sur Inter, ne changez rien, la suite. C'est le journal de 19h présenté par Simon Le Baron, puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, ce soir on parle des affaires politico-judiciaires.
Oui, on laisse Nicolas Sarkozy à la santé pour élargir le débat. Deux messages. Laurent, je suis très heureux aujourd'hui de voir enfin sortir toutes ces mises en examen d'élus originaires du Var, département tristement bien représenté dans le palmarès de la corruption. Je crois enfin à la justice, pourvu que ça dure. Et puis Catherine, nos élus plus propres, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a plus de mécanismes de contrôle, mais qu'il y a aussi une incompressible tolérance des électeurs français.
01 45 24 7000 et c'est le même chemin sur WhatsApp.